Le magazine du Tarn sur CFM, bonjour, bonjour à tous. Jacques avec vous jusqu'à la demi. Dans le mag, aujourd'hui, l'agenda culturel du week-end, comme tous les vendredis. Pierre Verdier, président de la commission Territoire et Développement Durable, dans quelques minutes par téléphone pour la quatrième édition du guide des producteurs bio du Tarn. Et puis nous parlerons également du prix Valserou, qui récompense chaque année un auteur de littérature de jeunesse sur le thème de l'imaginaire médiéval. Hier, au collège Valserou de Cordes-sur-Ciel, en présence du principal monsieur Précigou et d'une partie du corps professoral, le prix Valserou 2015 a été officiellement ouvert. Madame Gaumont, documentaliste au collège de Cordes, est à l'initiative de ce prix qui a pour objectif d'inciter les élèves de 5e et de 4e à lire des œuvres contemporaines qui s'inspirent de l'imaginaire médiéval. Madame Gaumont revient dans un premier temps sur l'historique de ce prix.
Alors, je suis arrivée au collège en l'an 2000. Et quand je suis arrivée, j'ai fait le constat de des lectures des élèves et je me suis aperçue que les élèves de quatrième ne lisaient pas et j'ai proposé au chef d'établissement de l'époque de créer un prix de littérature autour de l'imaginaire médiéval parce que bien sûr on y accorde. J'hésitais avec un autre thème aussi sur la nature, mais comme on était à Cordes, je me suis dit que c'était peut-être mieux de choisir l'imaginaire médiéval pour trouver des partenaires, la médiathèque, la librairie de Pierre Blanc. Voilà, on est parti sur cette idée et on a tenté l'aventure. Et un jour, voilà, j'ai parlé de ce projet pédagogique à une réunion de documentalistes du Tarn. Et ce projet a fait écho, et d'autres documentalistes, d'autres collèges m'ont demandé est-ce qu'on peut participer, comment on pourrait faire. Voilà, on a commencé l'aventure à 4, maintenant on est à 5.
Cette année, c'est environ 800 élèves des classes de 5e et 4e des collèges de Cordes-sur-Ciel, Brassac, Victor Hugo à Carmaux, Pierre de Fermat et Stendhal de Toulouse qui participent au prix Valsero.
C'est une aventure de lecture, ce que j'appelle une quête de lecture comme les chevaliers autrefois, qui n'est pas obligatoire. C'est à eux de se décider, de faire le geste, de venir chercher le livre, de le lire ensuite, de l'échanger avec les autres, d'en parler hein, jusqu'au jury. Voilà, c'est une aventure humaine aussi autour de la lecture.
Le prix Valsero 2015 verra concourir 5 œuvres de 5 auteurs différents qui ont été choisies de concert entre les documentalistes des différents collèges. Madame Gaumont.
Alors, cette année, donc, on a 5 ouvrages, donc, très variés, avec des styles d'écriture différents, des genres différents. On a l'aventure d'un chevalier qui s'appelle Bertrand du Guesclin. Une auteure qui avait été déjà choisie l'an dernier, mais qui n'avait pas gagné, peut-être cette année. Donc c'est une nouvelle collection qui s'appelle « Avant de devenir ».« Avant de devenir célèbre », et le chevalier du Guesclin, ma foi, est devenu célèbre par son courage. Il a été même le chef des armées sous le roi de France. Et on voit dans ce court roman, qui est bien composé, on voit l'enfance de ce chevalier. Alors, d'abord, un enfant assez agité, turbulent, qui n'écoute pas ses parents, qui pense à se bagarrer avec les fils des paysans. Et tellement il est turbulent que sa mère n'en peut plus. Elle veut même pas lui apprendre à lire et à écrire. Elle le déshérite. Et lui, bien sûr, il se sent mal aimé. Et à l'adolescence, il va se réfugier dans la forêt, il va se faire une bande un peu de brigands. Mais quand même, c'est un enfant qui a du courage, du cœur. Et on est en période de guerre entre l'Angleterre et la France. Et ce courage va devenir la carte d'identité de ce chevalier. Un autre ouvrage très différent, c'est un journal de bord, d'un enfant qui s'appelle Martin, qui va devenir l'apprenti du grand Gutenberg. Alors Gutenberg, l'invention de l'imprimerie, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, 30 ans après Christophe Colomb qui part pour les Amériques. Et on s'aperçoit que l'invention de l'imprimerie, eh bien, c'est une véritable révolution au Moyen-Âge qui va permettre la diffusion des livres, surtout, et de la connaissance et peut-être la renaissance. Gutenberg est à la fin de sa vie. Martin va recevoir cet héritage. Il va partir de ville en ville, Strasbourg, Paris. Et là, on va voir comment c'était difficile à Paris de cohabiter entre les copistes, les enlumineurs, et puis les imprimeurs qui amenaient cette nouvelle technologie de l'époque. Un livre assez gros, à peu près 350 pages, mais je pense qu'il va être dévoré comme les autres, c'est Merlin. Merlin, les années oubliées. Alors pour la première fois, on a choisi un auteur américain. Ça sera peut-être difficile de le faire venir jusqu'ici, mais... ce que je dis avec la magie de Merlin, tout est possible. Et là, on a aussi, non pas l'enfance, mais l'adolescence de Merlin. Comment cet enfant, qui ne s'appelait pas au départ Merlin, est devenu Merlin? Comment il a éprouvé ses premiers pouvoirs? Comment il a dû chercher qui étaient ses parents? D'où il venait? On est à la fois dans un roman fantastique, un peu héroïque, fantasy. Un roman qui parle beaucoup de la nature, et c'est peut-être là que l'auteur m'a touchée aussi. Il a une façon très très sensible de parler des arbres, du ciel, de la terre. Voilà, des personnages qu'il va rencontrer, notamment des esprits de la nature. Alors un quatrième roman, un peu mystérieux, parce que c'est une aventure, une quête sur un chat noir. Mais qui est chat noir? Chat noir, Tout le monde veut savoir qui il est. Tout le monde veut l'attraper. Tout le monde l'aime, mais tout le monde le déteste un peu parce qu'il est un peu comme Robin des Bois. Il vole l'argent pour en faire quoi? En tout cas, un chat noir est insaisissable. Sa tête est mise à prix et on va donner une somme d'argent fabuleuse pour l'attraper. Et c'est le début de cette histoire. Un jeune forgeron voudrait l'attraper pour avoir la récompense, car il voudrait épouser une jeune damoiselle, Félina, une baronnette, comme c'est écrit dans le livre. Donc il va partir en chasse de ce chat noir. Alors c'est un peu un James Bond médiéval, il a des gantelets forgés, magnifiques, qui permettent de grimper au mur. C'est tout un mystère que ce livre, y compris l'auteur, qui a pris un pseudonyme. On ne sait pas qui est l'auteur. Et le dernier ouvrage, eh bien, est peut-être proche de la cité de Cordes, puisqu'il se passe 30 ans après la construction de la cité, 1222. On est sur une petite terre du comte de Toulouse, le château de Bonnac, vers l'Ariège. Et là, on a le récit de la vie d'une jeune fille de l'époque qui est de confession cathare. Son père est mort dans le bûcher à Montségur. Elle est réfugiée chez son oncle. Alors, elle n'est pas bien riche, ses terres sont pauvres, il y a des maladies, des épidémies. Et on va la marier. On va la marier à un homme plus âgé qu'elle, un vieux baron qui n'est pas très beau, qui est un petit peu, je dirais, grossier. Elle n'est pas très enchantée de ce mariage, mais alors elle s'évade en lisant des romans d'amour comme Tristan et Iseult. Elle rêve d'un amoureux comme Tristan, bien sûr. Et voilà qu'arrive un jeune homme qui n'est pas noble, mais qui a des charmes, qui a un don aussi, et qui va lui parler du catharisme. Il l'amène découvrir quelques personnes qui vivent encore dans un village caché derrière une cascade et qui sont de confession cathare. Alors avec ce roman d'amour, on peut entrer aussi dans cette époque, ce 13e siècle, c'est difficile, où les cathares ont été pourchassés. On peut comprendre un petit peu ces religions qui ont disparu. C'est pas toujours facile pour les élèves, parce que bien qu'ils étudient le Moyen-Âge, bon, parler du catharisme, c'est pas toujours évident à des enfants de 12-13 ans.
Les collégiens des 5 établissements tarnais et toulousains sont maintenant invités, à titre volontaire, à lire et critiquer ces ouvrages. La suite se passe en plusieurs temps de rencontres et d'échanges jusqu'au vote au mois de juin.
Quand ils auront lu ces ouvrages, peut-être 5, peut-être 4, peut-être 3, peut-être pas du tout, puisque c'est libre, hein, c'est pas une obligation. En tout cas, ceux qui auront lu les 5 ouvrages seront invités à participer au jury du prix Valsiroux. Alors ça, c'est une autre aventure. Après la lecture, il y a le temps de la rencontre, le temps de la parole, apprendre à dire pourquoi on a aimé un livre, pourquoi on n'a pas aimé. Alors, bien sûr, on leur donne des pistes, on est là pour les aider, des grilles de lecture, les points de vue historiques, sont-ils justes ou fantaisistes? Pourquoi ce titre? Dans le roman, est-ce que les personnages ou les aventures sont cohérentes? Donc, ils apprennent à être critiques littéraires. Mmh. Première étape, premier jury. Ensuite, on éliminera 2-3 livres. Et tous les jurys des 5 collèges vont se rencontrer au mois de juin à Cordes, grâce à la mairie qui nous prête la salle Fonbérousse. Et là, c'est un ensemble de 100 élèves à peu près, un jury de 100 élèves, qui va délibérer et qui va choisir le lauréat. Voilà, alors le lauréat sera invité à venir au Salon du Livre d'Albi, prochain. Il sera invité par le Salon à faire des dédicaces, et nous-mêmes, nous ferons la cérémonie médiévale de remise du prix. Donc c'est toujours un moment plein d'émotions. Pour un auteur, c'est merveilleux de recevoir un prix de jeunes lecteurs.
Le prix Valsiroux 2014, décerné l'an dernier par les collégiens, sera remis lors du Salon du Livre d'Albi, qui a lieu du 20 au 22 mars prochain au Moulin de l'Albigeois. Et le lauréat 2014 est Béatrice Egemard pour L'eau des anges, un parfum d'histoire, une œuvre qui parle notamment de la fabrication des parfums au Moyen-Âge. Et Madame Egemard aura une petite surprise, car un collège a préparé le parfum à partir de la recette de ce livre. À suivre dans le mag, Monsieur Verdier, président d'Agroupoint Saveurs du Tarn et président de la commission départementale Territoire et Développement Durable pour la 4e édition du guide des producteurs bio. I'm gonna give you my love.
Mag. Tous les jours,
12h, 12h30.
La vie du pays cordais.
Depuis 4 ans, le département en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Tarn édite un guide qui référence l'ensemble des exploitations bio de la région. Pour nous en dire plus, monsieur Pierre Verdier.
CFM, le Mag.
Monsieur Verdier, bonjour.
Bonjour.
À l'initiative du département et de la Chambre d'agriculture du Tarn, la 4e édition du guide des producteurs bio vient juste de paraître. À qui s'adresse ce guide ?
C'est un guide qui est destiné au grand public et puis à tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture biologique pour donner un coup de projecteur et donner des renseignements pratiques à ceux qui voudraient trouver des produits biologiques en circuit court. Ça fait des années que le département travaille pour développer les circuits courts de proximité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le moins d'intermédiaires entre le producteur et l'acheteur final, le consommateur, mais aussi que ce circuit court il soit avec des producteurs du département. Et c'est dans ce cadre que, pour la 4e fois, donc le guide de l'agriculture biologique est édité par le département en partenariat avec la Chambre d'agriculture.
Comment a été élaboré ce document ?
Il y a un recensement qui est fait par les techniciens qui suivent l'agriculture biologique. Et à l'arrivée, on retrouve sur les 64 pages de ce document, pour ceux qui l'auront sous format papier, on retrouve à la fois par filière, par lieu géographique d'implantation, par type de production, un peu plus de 160 producteurs qui font de la vente directe. Il faut savoir que dans le département, il y a à peu près 350 exploitations agricoles qui sont en agriculture biologique et dont une majorité fait de la vente directe aux consommateurs. Donc ce sont les coordonnées de plus de 160 producteurs qu'on retrouve dans ce guide. Et il faut savoir aussi que le guide, on peut le trouver sur Internet. L'intérêt du guide sur Internet, notamment sur le site tarn.fr, c'est qu'on a la possibilité, avec une carte interactive, de trouver les producteurs qui sont autour de chez soi.
J'ai consulté cette carte et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a quand même un déséquilibre sur le département entre le nord et le sud du département en termes de la quantité d'exploitation biologique.
Vous savez, l'agriculture biologique est une agriculture qui souvent est faite dans des endroits où c'est un peu plus compliqué de faire pousser des choses en quantité, et donc on privilégie la qualité. Donc, notamment pour les producteurs qui sont en vente directe, c'est pas forcément des très très gros volumes, mais c'est lié aussi aux exploitations. Il y a un peu plus d'espace disponible dans le sud du département vers le Lauragais que dans la vallée du Tarn ou autour de la Caline.
Vous êtes président d'AgroPoint et conseiller général, mais également président de la commission territoriale et développement durable qui œuvre à favoriser le développement du bio sur le département du Tarn. Qu'est-ce que vous faites exactement au travers de cette commission pour favoriser les exploitations biologiques ?
Alors, la commission donne un avis sur un certain nombre de projets qu'on nous propose d'aider, de soutenir. Donc c'est qu'un avis qui est donné par la commission. La décision finale étant prise par les conseillers généraux dans leur ensemble, dans le cadre de la commission permanente de l'assemblée plénière du conseil général. Mais cela dit, ça fait des années que le département essaie de favoriser le développement de l'agriculture bio dans le Tarn. Juste pour info, il y a une vingtaine d'années, il y avait simplement une quarantaine d'exploitations agricoles qui faisaient du bio. On est aujourd'hui à plus de 350 exploitations et c'est un mouvement qui va se poursuivre parce que de plus en plus d'agriculteurs se rendent compte, au-delà de la nécessité de préserver l'environnement, du fait que ça peut être une production qui est quelquefois plus rémunératrice qu'une production dite en technique traditionnelle. Alors, l'autre souci du département, c'est que tout le monde veut manger bio, en tout cas de plus en plus de gens veulent manger bio, sauf qu'aujourd'hui, quand on achète bio, on achète souvent des produits qui viennent de très très loin, et pour beaucoup de l'étranger. Or, c'est pour encourager le développement de la production sur des circuits de proximité, que le département a notamment mené des actions avec le groupement des agriculteurs biologiques. Il y a un accompagnement, ce qu'on appelle des formations actions pour permettre à ces producteurs de voir comment essayer de vendre leurs produits à la restauration collective. Mais ça reste encore assez compliqué, et c'est pour ça que le département va continuer à aider ces réflexions et ces mises en œuvre, parce que si on veut nourrir les gens des jeunes dans les collèges, qui mangent dans les maisons de retraite ou autres, qui sont un potentiel important, il faut aussi avoir en face des exploitations qui soient en capacité de produire les produits en question. Manger bio, si c'est pour acheter des produits qui viennent du nord de l'Europe, c'est un peu dommage pour l'activité locale et pour l'activité économique de nos agriculteurs.
Le quatrième guide des producteurs bio, un point positif, c'est qu'on y apprend que le Tarn est la région française en termes de surface agricole biologique, la première en France.
C'est Midi-Pyrénées. C'est Midi-Pyrénées qui est la première région agricole, et le Tarn se situe en Midi-Pyrénées parmi les départements qui sont relativement dynamiques sur ces techniques de production.
Donc le guide des producteurs est disponible sur internet à l'adresse www.tarn.fr et également le site www.guidebio.tarn.fr. Il y a une version papier qui existe. Comment on fait pour l'avoir, cette version papier?
Alors très honnêtement, je ne saurais pas vous dire où est-ce que vous la trouverez. Je suis sûr que vous la trouverez au conseil général, à l'hôtel du département, à Albi, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'aller sur Albi. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir aller sur les sites internet. Je vous dis, la carte interactive, elle permet plus que le guide papier de se situer par rapport aux exploitations biologiques qu'il y a autour de nous et également par rapport au marché sur lequel on trouve des producteurs biologiques. C'est un des éléments qu'on retrouve aussi dans le guide, dans ce guide qui fait 64 pages et sur lequel il y a une ligne d'informations sur l'ensemble des producteurs bio du département.
Donc on a les différentes informations sur les producteurs, leurs adresses, mais également les circuits de commercialisation, donc entre les marchés, les ventes directes à la ferme et puis les produits estampillés saveur du Tarn. Est-ce que vous savez si ce guide en version papier est gratuit?
Il est gratuit. Entièrement. Il est gratuit. Je vous dis, peut-être le plus difficile, c'est de se le procurer pour arriver à trouver un point de diffusion, mais c'est pour ça aussi qu'il a été diffusé à la fois sur le site du département, sur celui de la chaîne d'agriculture. Il y a différents liens de différents organismes qui amènent dessus. En allant sur le site du département, tarn.fr, on va directement pouvoir accéder à la carte qui permet de donner les informations en fonction des demandes, en fonction du type de produit qu'on recherche aussi également. Et vous verrez que dans le Tarn, avec un peu plus de 160 producteurs qui font de la vente directe, il y a de quoi faire ses courses en bio avec des produits de l'agriculture tarnaise.
Merci Monsieur Verdier d'être intervenu dans ce magazine.
À bientôt.
Merci Monsieur Verdier.
CFM, c'est le mag, la vie du pays cordais.
Comme tous les vendredis, Thomas égrène les activités et spectacles qui se déroulent le week-end et vous concocte un agenda de bons plans que l'on écoute maintenant.
L'agenda du week-end sur CFM Radio, le rendez-vous des bons plans. Bienvenue dans votre agenda culturel, le rendez-vous des bons plans. Ce soir, ouvrez bien vos esgourdes, c'est au Bollégason de Castres que ça se passe. Bigaranx et Codebreaker viennent chauffer les planches pour ce rendez-vous immanquable. Ambiance de feu avec le français Bigaranx, du raga au hip-hop, ce type va vous faire pleurer de bonheur. Suivi des Codebreaker, deux vrais aliens furieux de gros sons, entre rock, hip-hop et ambiance psyché. Bref, du gros lourd orchestré par les copains de Pollux Asso au Bollégason ce soir. À Castres, samedi, dès 21h, la Casa d'España vous attend pour un spectacle flamenco, danse et musique, avec le prochain Andanzas et la danseuse Stéphanie Fuster. Un flamenco épuré, audacieux, vibrant et incandescent. Casa de España, 8 places Soult à Castres pour un tarif de 15 à 23 euros. Samedi toujours, l'Office Municipal Culturel Blayé vous invite à une reggae party pleine de good vibes pour la sortie du nouvel album des Banyans, groupe montant du reggae roots français et mis en bouche par l'excellent groupe Motmaina Family dès 21h. Une soirée world music de qualité vous attend donc à Landrevier, salle Daniel Balavoine de Blaye-les-Mines, samedi pour un tarif de 7 à 10 euros. Et pour terminer, à Albi, dimanche à partir de 15h, c'est le Grand Théâtre des Cordeliers qui ouvrira ses portes pour la 21e rencontre chorégraphique. L'association Albi Destination Danse, créée par Madame Neil et organisatrice de cette édition, met l'accent sur la création. Amateurs et professionnels de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon se réunissent pour l'occasion avec notamment la venue exceptionnelle depuis la Croatie de la Blue Mill Company. Une journée de danse et de rencontre pour un tarif unique de 15€. Voilà pour les bons plans du week-end. Et comme d'hab, on profite, mais on boit pas trop si on conduit. Ciao.
Et pour compléter cet agenda, dès 15h et jusqu'à 19h, à la Maison des Compagnons, 5 rue du Barry de la Guipi, les volontaires de l'association Citrus vous invitent à un open café dédié cette fois-ci à la musique. Un bœuf musical pour les oreilles et les guiboles, et des pâtisseries d'ici et d'ailleurs pour les papilles. Venez juste avec vos instruments et partagez un moment agréable en toute convivialité. Ce soir, du côté de Saint-Antonin, c'est Brahim Dour qui est en fin de résidence à la salle des Termes. Il vous propose, accompagné de ses 4 compères, un répertoire jazz oriental. C'est organisé par l'association Même sans le train à un tarif de 5€. Toujours ce soir, à partir de 20h30, le bar associatif Sur les pavés, Porte des Ormeaux à Cordes-sur-Ciel accueille Michel Bonnet pour une conférence sur le thème des femmes à Cordes pendant la guerre de 14-18. Et enfin, aux cabanes, demain samedi et puis dimanche, à l'atelier Renaissance Route de la Déchetterie se tient les colloques de la Charpente. C'est organisé par l'Union Compagnonique du Tour de France des Devoirs Unis. Le Mag du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour d'autres actualités de la région. Bon week-end à tous et soyons sages. Bonne continuation à l'écoute des programmes de CFM.